Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, nous avons vu que Dieu a créé l'homme en lui donnant la possibilité de faire partie de la famille divine. La destinée de l'homme est de devenir un membre de la famille divine, devenant ainsi un dieu, ou d'être détruit par ce grand feu qui dévorera la surface de la terre au moment où tous les méchants subiront la seconde mort décrite dans le 20e chapitre du livre de l'Apocalypse. Tous ceux qui feront leur part au cours de leur époque de salut et qui se qualifieront seront transformés pour devenir des êtres spirituels, des dieux, tout comme Dieu le Père et Jésus-Christ. Comprenons bien que nous ne deviendrons pas Dieu le Père ou Jésus-Christ. Cette pensée est ridicule. Personne ne prendra jamais leur place. Personne n'aura jamais la même puissance, la même autorité qu'eux. Mais lorsque l'homme sera composé d'esprit et non plus de matière, il aura une vie identique à la leur. Chacun sera un individu distinct, ayant sa personnalité, ses caractéristiques, ses activités. Il assumera les responsabilités qui lui seront confiées, tout en étant d'un même esprit avec le Père et le Fils, en toute harmonie, devenant un comme eux le sont. Dès lors, l'homme sera toujours un membre de la famille divine, sous l'autorité du Père et du Fils. La Bible déclare « Au commencement, Dieu créa ». Comme je vous l'ai déjà expliqué, le mot « Dieu » est traduit ici de l'hébreu « Elohim », qui a le même sens que « famille »,« église »,« assemblée ». Ce mot aurait pu être traduit par « la famille divine ». Il sous-entend automatiquement plusieurs individus, car sa terminaison « im » indique la pluralité. Voilà pourquoi, lorsqu'elle parle d'elle, cette famille utilise le pluriel et dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Toutefois, il est intéressant de remarquer que le mot « Elohim » est utilisé avec le verbe au singulier. Par exemple, il est bien écrit « au commencement Dieu créa » et non « créèrent ». Pourquoi ? Parce que Dieu est un mot singulier, Dieu est un, Dieu est une famille. C'est une famille qui, pour le moment, n'est composée que de deux personnes, mais qui plus tard comprendra un grand nombre d'individus qui seront des fils et qui porteront le nom Dieu, qui est celui de la famille divine. Paul le confirme. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Il y aura de nombreux membres dans la famille divine. C'est ainsi que dans la généalogie reprise dans l'évangile de Luc, nous lisons qu'Adam est fils de Dieu. Par une phrase très explicite, une affirmation remarquable, la famille divine résume le but de la vie humaine, la raison de la création physique. Lisons la première référence à l'homme dans la Bible. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu annonce ici son intention de se reproduire selon son espèce, c'est-à-dire selon sa famille divine. Après la création des plantes et des animaux selon leur espèce, la famille divine créa l'homme à son image et à sa ressemblance, autrement dit, selon l'espèce divine. Pourquoi la phrase « selon son espèce » ne s'appliquerait-elle pas à l'homme, alors qu'elle est donnée systématiquement à toute autre forme de vie? La réponse à cette question est fondamentale. Le but de la vie humaine n'est pas qu'une reproduction physique selon l'espèce humaine, mais une reproduction spirituelle selon l'espèce divine. Un agneau, un oisillon ou un veau sont destinés à devenir semblables à leur espèce, à leur géniteur. De même, chaque être humain est destiné à devenir semblable à Dieu, à la famille divine. L'homme voudrait connaître la raison de son existence, mais Dieu la lui a révélée en quatre mots. Quatre mots hébreux qui ont été traduits par 9 mots en français. Faisons. Nous, la famille divine, faisons l'homme à notre image, à l'image de la famille divine, selon notre ressemblance, conformément à la ressemblance de la famille divine. Rappelez-vous la promesse que l'Éternel Dieu a faite à Abraham et qui est celle-ci. Je te donnerai, et à tes descendants, après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Cette promesse s'étend à la terre entière, comme Paul le confirme. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. L'Épître aux Hébreux affirme qu'ils sont tous morts dans la foi, y compris Abraham, sans avoir obtenu les choses promises. Dieu est fidèle dans ses promesses. Nous pouvons donc avoir la certitude que Dieu le ressuscitera et lui donnera ce qui lui a été promis, le monde, la terre entière. Lisons ce que l'Éternel Dieu affirme à la descendance d'Abraham, à l'ancien Israël. « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi, comme étrangers et comme habitants. » Le pays appartient à Dieu, c'est sa propriété. La terre de Canaan ainsi que le reste de notre planète sont propriété de la famille divine qui seule peut posséder une terre à perpétuité. Par conséquent, si Dieu veut donner la terre entière à perpétuité à Abraham, et Dieu est tenu par ses promesses, nous pouvons logiquement en conclure qu'Abraham deviendra un jour membre de la famille divine. Aux Juifs qui l'interrogeaient sur son identité, Jésus répond ceci. « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres, pour laquelle me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. » Jésus a cité ici un passage de l'Ancien Testament. « J'avais dit, vous êtes tous des dieux. » Selon le texte original, « Vous êtes Elohim. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. » Malgré la limpidité et la simplicité de cette déclaration, le monde chrétien rejette ce passage des Écritures et fournit des explications qui ne correspondent pas aux paroles du Christ, parce qu'il se refuse à admettre que la destinée de l'homme est d'entrer dans la famille divine. Lisons ce que le Christ déclare. « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Dans la Bible traduite par le chanoine Crampon, édition préfacée en 1923, ce verset est traduit comme suit. « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Dieu est parfait. Nous le savons et nous le constatons dans sa création. Ce verset insiste sur la nécessité d'atteindre le même niveau de perfection que Dieu. Comment et quand cela sera-t-il possible? Lors de la résurrection, lorsque l'homme entrera dans la famille divine. Si les hommes doivent devenir des créatures spirituelles divines, mais avec un plan d'existence inférieur à celui de la famille divine, alors ils ne pourront jamais devenir parfaits comme leur Père céleste est parfait. Si ce devait être le cas, il y aurait soit une erreur dans les Écritures ou une impossibilité de faire ce que Dieu demande. Dieu est amour et il sait que l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance sera un jour semblable à lui, donc parfait comme lui. Le Christ ajoute, « Voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. » La relation de paternité de Dieu envers son peuple appelé enfant ou fils est fondamentale dans la Bible. Nous avons entendu tant de fois les mots « notre Père » ou encore « Père aux cieux » que cela est devenu familier. L'homme peut s'adresser à son Père qui est dans les cieux. Cette possibilité devrait le frapper d'étonnement et le fasciner s'il veut bien y penser, car ce faisant, il s'adresse à celui qui a créé la terre, les étoiles, les galaxies, l'univers entier, et il peut l'appeler « Père », avec la conviction que ce Père miséricordieux l'écoute. Un bon Père essaiera toujours de donner à ses enfants une qualité de vie identique à la sienne. Et si le Très-Haut permet que l'homme qu'il a engendré de son Saint-Esprit l'appelle « Père », c'est qu'il le considère déjà comme son enfant, et il doit donc souhaiter lui donner une qualité de vie identique à la sienne. Quand ? Lorsqu'il sera devenu membre de la famille divine, pas avant. Jésus décrit les justes qui se trouveront dans son royaume. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. L'apôtre Jean, lui, nous décrit Jésus de la façon suivante, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Les justes brilleront comme le soleil lorsqu'ils seront dans le royaume. Ils seront semblables au Christ, comme le Christ est semblable à Dieu. Tous ceux qui entreront dans le royaume dans la famille divine seront d'eux-mêmes semblables à Dieu. Avant de terminer, j'aimerais vous citer les paroles que Jésus a adressées à son Père avant son arrestation. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. La traduction n'est pas « Je veux que là où je suis mes biens, je veux que là où je serai ». C'est ce qu'indiquent plusieurs versions. Et d'ailleurs, au moment où il prononce ces paroles, les apôtres sont encore autour de lui et Jésus sait que sa mort est toute proche. « Afin, poursuit le Christ, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Pour qu'il n'y ait point d'équivoque et que mon message soit bien clair et bien compris, je souhaite conclure ce sujet en rappelant que Dieu le Père et Jésus notre chef et notre sauveur resteront à jamais les plus grands en puissance et en autorité. En tant que fils de la résurrection, ceux qui entreront dans la famille divine seront au même niveau d'existence que le Père et le Fils, tout comme nos fils et nos filles sont au même niveau humain que nous. Dieu le Père et Jésus ont toujours existé, et les futurs ressuscités partageront avec eux cette existence divine merveilleuse que notre esprit charnel a peine à réaliser. Il est primordial que nous comprenions que la continuité de l'éternité se poursuit sans cesse et que, lorsqu'il sera devenu membre de la famille créatrice, l'homme se joindra à Dieu sous son autorité pour gouverner, créer et réaliser des projets grandioses tout au long des siècles à venir.